La grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle et profane des Grecs, charis humin, le bonheur devenu la grâce, qu'elle soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom alechem. La paix soit avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre culte par cette expression de l'apôtre, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament, celui du bonheur et de la grâce du Second Testament. Mais aussi que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion, qui s'y sentent à leur aise, comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Que la grâce et la paix soient donc avec vous tous. Nous ne suivons pas de feuille de liturgie pour ce culte, donc je vous indiquerai chacun des chants et nous allons commencer avec le psaume 25, la strophe 1 du psaume 25. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à rester debout pour la louange. Je te loue, Éternel, de me surprendre quand je suis habituée, de me reprendre quand je suis égarée et de me prendre quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain et non pas un Dieu éloigné ou immobile, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et nous poursuivrons cette louange en chantant au cantique 254. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, nous le chantons en entier.
Thank you.
Prenez place. Et nous écoutons une expression de la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu est en nous source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous. Elle emplit nos vies de sa lumière. Dieu nous montre les fautes du monde. Il dénonce les forces du mal qui nuisent aux humains. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente et nous dynamise afin qu'avec tous les humains de bonne volonté sur la terre entière, nous collaborions à son grand projet de vie en plénitude. Viens, ô notre Dieu, et que ta volonté se fasse. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 25, la deuxième strophe. Nous nous levons pour chanter. La deuxième strophe du psaume 25. Je vous invite à vous asseoir, mais gardez vos cantiques ouverts au psaume 25. Et voici le moment de nous présenter à Dieu dans la prière telle que nous sommes. Et c'est Louise qui va nous conduire dans cette prière.
Quand le chemin de notre vie est angoissant, Éternel, fais route avec nous, sois toi-même notre chemin. Quand le fardeau de notre malheur est lourd, Éternel, porte-le avec nous, sois toi-même notre repos. Quand la marche vers demain est fatigante, Éternel, prends nos mains dans les tiennes, sois toi-même notre courage. Quand notre course dans la nuit est solitaire, Éternel, mets ta lumière en nos cœurs, sois toi-même notre frère. Et puisque tu allumes toi-même en nous la flamme de l'espérance, viens combler notre vide, et pour les siècles des siècles, nous vivrons avec toi. Amen.
En restant ainsi, nous chantons la troisième strophe du psaume 25. La volonté du Seigneur, de notre Dieu éternel, et que nous soyons relevés, redressés, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il transforme nos esprits alourdis de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et il nous la donne sans mesure. Amen. Et nous chantons la quatrième strophe du psaume 25. Avant de lire le texte qui portera notre méditation de ce jour, qui est le texte que nous avons travaillé ce matin avec Louise, Constance et puis Jean aussi qui était présent à travers un écran. On avait une petite séance mixte de caté comme ça ce matin. Avant de lire ce texte qui portera la prédication, eh bien nous prions. Éternel notre Dieu, nous voici. Nous voici rassemblés, recueillis, réunis. Et nous te prions en te demandant ton esprit, qu'il souffle sur les mots anciens de la Bible, qu'il souffle dans nos esprits un peu apeurés, un peu repliés, et que se lève ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Constance et Louise vont donc nous lire ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Nous avons entamé, alors un peu cas un cas, avec toutes les circonstances que nous connaissons depuis le mois de septembre, un parcours sur le thème de la rencontre. C'est donc un texte dans lequel il est question de rencontre.
Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain ?
Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te les paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. »
Vous avez bien compté, enfin si vous avez compté. Dans ce récit de 12 versets, 5 questions sont posées. Et c'est quand même une proportion tout à fait remarquable. Ce n'est pourtant pas en raison de cette caractéristique que ce texte est tellement connu. Un des plus connus du Nouveau Testament, au point que l'expression « un bon samaritain » est passée dans le langage courant pour désigner une personne qui prend soin d'autrui. 5 questions en 12 versets, ce n'est pas banal. Il y aurait d'ailleurs peut-être de quoi donner un autre titre à cette péricope de l'Évangile de Luc que celui qui lui est attribué dans l'immense majorité des éditions de la Bible, la parabole du bon samaritain. D'un côté, le spécialiste de la loi pose 2 questions à Jésus qui lui en pose 3. On pourrait trouver que c'est comme un ping-pong de questions, mais en fait non, ce n'est pas un jeu. Une question, une question, une question, une question, une question, c'est un chemin. C'est un chemin. D'ailleurs, c'est une question qui mérite d'être posée pour la vie en général. Est-ce qu'il y a un chemin sans question? Est-il possible d'avancer sur son chemin sans question? Un chemin de vie s'entend, bien sûr. D'autant plus qu'il est question dans la parabole et dans ce récit de chemin et de vie. Alors je vous invite à passer un peu en revue ces questions. La première est posée par le spécialiste de la loi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est à la fois une question de foi et une question d'existence. Parce que la foi et l'existence sont profondément liées. Quelle que soit la foi d'une personne, même la plus étrange, cette foi influence considérablement son existence. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est pas seulement une question posée par le spécialiste de la loi. C'est une question qui en pose à celui qui lit le récit. Et c'est remarquable d'ailleurs dans ce récit, c'est que finalement chaque question qui y est posée pose au moins une, voire plusieurs questions à celui qui lit. Par exemple, à partir de cette première question, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? À cette question du légiste, de l'homme, du spécialiste de loi, du légiste, Jésus répond par une autre question. Dans la loi, qu'est-il écrit? Ça, c'est une question de lien. Quel passage, au singulier ou au pluriel, prend ou prenne en charge la question de la vie éternelle dans les Écritures hébraïques? Le spécialiste de la loi doit pouvoir répondre, puisque c'est sa spécialité. Mais quand on n'est pas spécialiste, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il est toujours possible d'aller poser la question à d'autres personnes qui pourraient aider à trouver une réponse. Une question intéressante, une bonne question, c'est toujours une question qui se partage. Jésus ajoute une deuxième question qu'il articule complètement à la première. Elles sont même en fait indissociables, ces deux questions. Elles pourraient être fondues l'une dans l'autre. Mais il est important de les poser l'une après l'autre de manière distincte pour que personne ne puisse s'imaginer que ce qui est écrit dans la loi, dans la Bible, suffit pour répondre à une question. La deuxième question, c'est « Comment lis-tu ?» Parce que lire est un acte qui engage le lecteur. Il n'y a pas de lecture sans un « comment lire » qui relève de la responsabilité du lecteur. Le spécialiste de la loi dans le récit est celui qui lit le récit de Luc ou n'importe quel autre texte biblique. Mais peut-être aussi le journal, un roman, un poème, un essai. Lire. Lire fait non seulement appel à la compréhension de ce qui est écrit, mais aussi à l'interprétation. Alors c'est la question que le lecteur se pose. ou qui lui est posée par le texte. Selon quelle méthode, quels critères, quels repères, quel point de vue interprétons-nous un texte biblique ? Vaste question pour le lecteur des Écritures, ou le lecteur du journal, ou même d'une page Facebook. De quel point de vue lisons-nous ? Cette deuxième question de Jésus nous fait comprendre que lire les Écritures engage les lecteurs comme artistes interprètes de la lecture, et puis de la vie, puisque vous vous souvenez que la première question, c'était une question existentielle. Le spécialiste de la loi l'a bien compris, et il va chercher deux références. Deux textes dans deux livres différents des Écritures hébraïques, le Deutéronome et le Lévitique. Et ces deux textes, il les rassemble de sa propre initiative, librement, en réponse aux questions de Jésus. Cette association, c'est son choix, c'est sa décision, c'est son œuvre d'interprète. Alors lui, comme il est spécialiste, il a pu le faire tout seul. Mais la question « comment lis-tu ?» c'est aussi une question très partageable. Même une question qu'il faut partager. Parce que la pensée d'autres personnes aide énormément à formuler une pensée personnelle. Et même plus précisément, la manière de penser et d'interpréter d'autres personnes aide à affiner sa propre manière de penser et d'interpréter. Alors, la quatrième question est posée par le spécialiste de la loi en vue de l'éclaircissement d'une notion particulière, celle du prochain. Qui est mon prochain ? Ce spécialiste de la loi sait très bien que sa question trouve des réponses dans la loi elle-même. Il sait aussi qu'elle est très discutée par les spécialistes de la loi de son temps et des temps précédents. Mon prochain, c'est un membre du peuple d'Israël, point. Pour d'autres, ça peut être aussi un prosélyte, quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui rend quand même un culte au Dieu d'Israël. Pour d'autres encore, ce peut être aussi un étranger, mais qui vit parmi le peuple, qui est installé parmi ce peuple. Qui est mon prochain ? Vous savez bien, nous savons bien, à quel point cette question-là est toujours très débattue. Combien cette question-là est parfois extrêmement clivante dans toutes les sociétés. Cette question-là ne cesse jamais d'être posée pour le meilleur ou le pire des réponses. C'est une question à laquelle personne ne peut échapper. Et il vaut mieux en avoir conscience pour tâcher de donner une réponse en conscience. C'est à cette question que Jésus répond par une parabole. Et à l'issue de cette parabole vient la cinquième question. Qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? Et ça, c'est une question renversante. Parce que ce n'est pas du tout la question présupposée ni par la parabole, ni par la question du spécialiste de la loi qui demandait « Qui est mon prochain ?» Toute la parabole invite à se mettre à la place du Samaritain qui voit le blessé, qui s'approche, qui le soigne, qui le transporte à l'auberge, qui fait tout ce qu'il peut pour que le blessé soit soigné. Mais la question de Jésus, elle fait basculer l'auditeur de la place du Samaritain à celle du blessé. Non pas « qui est mon prochain, que je fasse quelque chose pour lui ?» mais « qui s'est montré mon prochain en me portant secours lorsque j'ai eu besoin d'aide ?» Et là, chers amis, il n'y a plus qu'à s'asseoir pour remonter dans ses souvenirs, pour y retrouver les Samaritains de sa propre histoire. Et le lecteur de la parabole se demande alors quand il s'est trouvé en situation de détresse, de faiblesse, de vulnérabilité, de dénuement, d'impuissance. Il se demande, ce lecteur, est-ce qu'il se souvient bien de ceux qui l'ont secouru ? Est-ce qu'il ne les a pas un peu oubliés ? Certains, peut-être tous. Alors il faut revenir au début. Il faut reprendre le fil des questions pour comprendre ce qui est véritablement mis en question et qui conduit au renversement de la dernière question. Alors on reprend. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Alors, on peut tenter de reformuler la question. Que dois-je faire pour être sauvé ? Encore un mot très, très lourd théologiquement. Alors, pour le dire autrement, que dois-je faire pour que ma vie reçoive suffisamment de densité et ne soit pas semblable à une feuille morte transportée n'importe où par le vent ? Que dois-je faire pour trouver un sens à ma vie ou une raison de vivre ? Que dois-je faire pour que ma vie soit une vie véritable et qui vaille la peine d'être vécue ? Ou pour le dire encore complètement autrement, quelle est la clé de la vie éternelle ? Et cette question reflète une inquiétude. Qu'est-ce que je vaux au fond ? Que ce soit aujourd'hui ou pour après ma mort, qu'est-ce que je vaux ? Alors que faire pour valoir assez pour la vie éternelle ? Que faire pour hériter, pour mériter ? Et on peut l'écrire au moins de deux manières différentes. Mériter le salut. Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? Tu veux faire, dit Jésus. Eh bien, cherche, réfléchis, et tu vas trouver. Et oui, le spécialiste de la loi trouve une bonne réponse, si bonne d'ailleurs qu'elle est adoptée par un très grand nombre de croyants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Comme si c'était une réponse facile à comprendre. Comme si c'était une réponse facile à faire, puisqu'il voulait faire. Une réponse facile à mettre en œuvre dans son existence. Aimer. Aimer Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon intelligence, que tout de moi soit réquisitionné, convoqué, rassemblé, constitué. Au fil du temps, parce qu'il s'agit d'un futur et pas d'un impératif. Que tout de moi soit constitué au fil du temps dans l'amour pour Dieu. Cela signifie que je suis et je serai en aimant Dieu. Mais quel est ce Dieu que la loi me désigne et m'appelle à aimer ? Quel est ce Dieu dont l'amour que j'ai pour lui me tourne vers le prochain à aimer aussi. Ce sont des questions que le texte fait se poser au lecteur qui a compris, en faisant le premier tour des questions, qu'il n'y a pas d'évidence. Aujourd'hui, je ne réponds pas forcément à ces questions. Parce que je vous l'ai dit, comme je l'ai dit à Louise et à Constance et à Jean ce matin, on avance bien mieux. Et on va bien plus loin avec des questions qu'avec des réponses. Le spécialiste de la loi lui demande qui est le prochain. Il demande pour se justifier. Il avait posé la première question pour mettre Jésus à l'épreuve. Mais finalement, peu importe dans quelle intention une question est posée, du moment que celui qui la pose accepte d'entendre ce que dira celui qu'il questionne, et même si cette réponse est une autre question. C'est ainsi qu'on avance, c'est ainsi qu'on fait du chemin, de même que c'est ainsi qu'on se laisse rejoindre, et qu'une rencontre est possible de question en question, et nous en avons parlé aussi ce matin. On rencontre l'autre, mais il y a toujours un moment où l'on se rencontre soi-même aussi, à nouveau. Donc le spécialiste de la loi a voulu mettre Jésus à l'épreuve, et c'est lui qui a bien répondu. « Fais cela et tu vivras », a dit Jésus. Et il veut maintenant se justifier, s'assurer encore de sa réponse, et puis surtout poursuivre sur cette notion de faire qui lui tient vraiment à cœur. Il a raison, parce que c'est ainsi une existence. Agir, parler et agir, se rendre présent, faire. Mais se rendre présent en se comprenant devant Dieu pour se tenir devant son prochain. Faire ce qu'il faut pour hériter la vie éternelle et savoir comment faire pour repérer ceux qui sont les prochains. Repérer ceux qui ne le sont pas. Peut-être repérer ceux qui pourraient l'être, ceux qui voudraient l'être, ceux qui ne veulent pas l'être. Comment on fait ? La logique est une logique de tri, une logique de classement, une logique d'étiquette. Et c'est ce que conteste la parabole du Samaritain, qui place le prochain dans une dimension d'universalité, c'est-à-dire sans critères de discrimination, sans constitution de groupe, sans tri des uns et des autres. L'universalité, ce n'est pas une question de nombre. Elle ne signifie pas qu'il faut aimer les 7 et quelques milliards d'êtres humains. L'universalité, cela signifie « je ne poserai pas de classification ni de condition pour aimer mon prochain. Je l'aimerai tel qu'il est, tel qu'elle est, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, et même si il ou elle est très 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 différent de moi. » Parce que même s'il est très 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 différent de moi, il me renvoie quand même une image de moi-même et je peux me mettre un peu ou beaucoup à sa place. Et c'est pourquoi le Samaritain s'est arrêté sur son chemin pour secourir l'homme blessé. Parce qu'il a pu se dire, ce pourrait être moi. Je pourrais aussi me trouver dans cette situation de détresse, aussi fragile, impuissant, démuni, livré à la merci, à la pitié, à la bonté, ou à l'indifférence, ou à la maltraitance. Et c'est pourquoi le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés, parce qu'ils n'ont pas pu s'imaginer à la place de l'homme blessé, pour des tas de raisons. On en a évoqué quelques-unes avec Louise, Constance et Jean ce matin. La peur, on est pressé, on ne sait pas quoi faire, on croit qu'on ne peut rien faire. Et petit à petit, finalement, on ne se reconnaît pas dans celui qui a besoin d'aide. Le prêtre et le lévite n'ont pas été émus en voyant le blessé. Littéralement, dans le texte, leurs entrailles n'ont pas frémi, leur corps n'a pas réagi. Le Samaritain, lui, a fait ce qu'il a pu. L'huile, le vin, le transport de l'homme blessé à l'auberge, un peu d'argent pour les frais, et il est reparti. Sans demander ni reconnaissance, ni paiement, sans laisser d'autres traces que le bien fait. Et avec la dernière question de Jésus. Le spécialiste de la loi, le lecteur, vous, moi, nous sommes invités à nous reconnaître dans l'homme blessé, dans celui qui est sauvé, dans celui qui est aimé et qui n'a rien fait. La dernière question de Jésus fracture tout l'édifice du vouloir faire pour réinjecter à la base, au fondement du faire, non pas une loi, pas une loi pour bien faire, ni même, par exemple, la loi de la règle d'or, celle qui commande de faire à autrui ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Non, à la base du faire, Jésus ne met pas une loi, il met la gratitude. La gratitude d'avoir été soigné, aider, sauver. Et cette expérience, mais c'est celle de chacun, qui a été un petit enfant, ayant besoin de recevoir attention, amour, nourriture. Chacun qui a été malade ou blessé et qui a eu besoin de quelqu'un qui le soigne. Chacun qui a été un jour désemparé et qui a eu besoin d'être encouragé. Chacun qui s'est senti un jour perdu et qui a eu besoin d'être aimé. Ou qui est un jour tombé au bord du chemin et qu'un Samaritain a ramassé, transporté, sans rien demander en échange. Hériter la vie éternelle, être sauvé, c'est un laisser-faire. Ce n'est pas faire. C'est avoir laissé faire les Samaritains. S'être laissé aimer pour pouvoir aimer à son tour. Aimer Dieu révélé par ce Jésus-Christ qui a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son intelligence, de toute sa pensée, les blessés sur son chemin. Et puis aimer les Samaritains, ceux qui se sont fait les prochains, ne pas les oublier. Cultiver le souvenir de leur grâce, le souvenir de la trace de l'amour reçu, afin que ce souvenir se déploie vivant en gratitude. Ce souvenir, même du peu qui a été reçu, pas seulement quand c'était beaucoup, et alimenter ainsi la gratitude en soi, afin qu'elle se répande jusqu'à devenir la trame profonde de l'existence et lui donner sa densité d'humanité. Car c'est la gratitude qui est la véritable puissance et énergie de vie et d'action dans l'existence. C'est la gratitude qui nous dispose à recevoir la grâce, l'amour, le salut, quand ils viennent, quand ils nous sont donnés. Et c'est elle qui nous dispose à devenir aimants à notre tour, non par devoir, non par la loi, mais par désir vital de donner à notre tour du bien à ceux qui en ont besoin. Et cette circulation de grâce, c'est cela l'amour et c'est cela la vie. C'est ainsi que nous devenons un peu plus à l'image de Dieu. C'est ainsi que nous devenons de plus en plus semblables au Christ et aussi, surtout, de plus en plus humains. Et cela, chers amis, c'est un chemin avec des questions à partager. Amen. Thank you. Voici le moment de confesser notre foi. Constance va nous conduire dans la confession de foi. Je vous invite à vous lever.
Nous croyons en Dieu. Il est la source, l'être et le but de toutes choses. L'esprit qui anime tous les vivants. Nous sommes les disciples de Jésus, qui vivaient de la présence de Dieu et l'a révélé aux hommes. Né par amour, il a vécu par amour, a souffert par amour et est mort par amour. Mais l'amour est plus fort que la mort. Nous voulons suivre la loi de l'amour qui est Dieu, avoir nous aussi de la compassion pour les êtres, vivre et œuvrer en communion avec tous les humains de bonne volonté, pardonner et recevoir le pardon, célébrer Dieu et nous réjouir en lui toute notre vie. Amen.
Et je vous invite à chanter au cantique 242. Nous t'invoquons au Seigneur, nous chanterons les trois strophes. Partageons quelques annonces. D'abord, ceux qui avaient demandé des parts de galettes à notre amie Nicole pourront les récupérer après, à la fin du culte. C'est bien ça, Nicole? On peut récupérer les parts de galettes à la fin du culte?
Pour ceux qui y ont commandé.
Oui, bien sûr. Et Nicole propose d'en refaire pour dimanche prochain, si vous avez raté la fournée d'aujourd'hui. Mais il faut le lui signaler. Avis aux gourmands. Ensuite, une autre annonce concernant le temple, en fait, et l'organisation de l'accueil au foyer de l'âme. Nous venons d'installer, suite à une décision qui avait été prise il y a quelques mois déjà par le conseil presbytéral, et puis les temps étant ce qu'ils sont, on a un peu tardé, mais nous venons d'installer dans la galerie de ce côté-ci un coin pour les petits-enfants. C'est-à-dire que les parents qui veulent venir, ou grands-parents, parce qu'il y en a aussi ici, qui veulent venir avec des petits-enfants, c'est-à-dire soit des moins de 6 ans qui ne sont pas encore à l'école biblique, ou des enfants de 6 ans, mais un jour où il n'y a pas école biblique, eh bien, il y a là-haut, vous pourrez aller voir après le culte, un tapis de jeux, des tables, des coloriages, des jouets, des livres, enfin, un petit coin pour les enfants, afin que les parents puissent assister et profiter du culte pendant que les enfants sont occupés tranquillement, on espère, avec les activités qui leur sont proposées. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous pour que les enfants soient, et nous avons souhaité le faire, pour que les petits-enfants aient leur place au foyer de l'âme, et pas seulement les grands. Hein. Merci quand même d'être là. Dans les activités de la semaine qui vient, il y a plusieurs rendez-vous. D'abord, mardi, le comité d'entraide, de l'entraide du foyer de l'âme, se réunit à 14h30. Ensuite, à 20h, ce sera la réunion mensuelle du conseil presbytéral, qui se tient en visioconférence comme depuis un bon moment maintenant. Vendredi 15 à 19h30, ce sera la rencontre mensuelle du groupe Théo et Psycho, qui a commencé la lecture d'un livre de Lita Basset, un petit livre qui s'appelle « Culpabilité, paralysie du cœur ». Donc nous avons commencé avec le récit biblique de la guérison du paralytique, vous savez, celui qui est descendu par ses amis qui ont fait un trou dans le toit. Et là, nous poursuivrons avec le récit de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda dans l'évangile de Jean. Donc, toujours à partir du livre de Lita Basset. Cette réunion se tiendra en visioconférence, bien sûr. J'envoie le lien aux membres connus. Et si vous souhaitez y participer, que vous êtes pour la première fois, il faudra me demander de vous communiquer ce lien. Samedi 16, ce sera Ciel et Terre, le groupe plutôt Philo et Théo qui tiendra sa réunion aussi par visioconférence. Et nous parlerons, nous avons entamé un parcours autour de la notion d'écologie, de création, et ce sera une séance plus particulièrement consacrée à la création. Qu'est-ce que c'est que la notion théologique de création? Donc samedi matin. Et puis, dimanche à 17h, eh bien, nous commençons le premier des quatre cultes-conférences de notre cycle annuel. Dimanche 17 à 10h30, pardon. Merci. Le premier donc des quatre cultes-conférences de ce cycle intitulé « Comment allez-vous ?» et qui nous permettra d'entendre donc le 17 Françoise Bourron, qui est une historienne et qui est spécialisée dans ce que la presse a dit de la grippe espagnole en 1918-1919. Donc elle interviendra dimanche 17. Nous aurons ensuite le dimanche suivant Éric Ruff, administrateur général de la Comédie-Française. Le dimanche 31, Mathilde Himmer, qui a été une des organisatrices de la Convention citoyenne sur le climat. Et puis le 7 février, le dernier culte-conférence se rassemblera des musiciens du foyer de l'âme, où nous aurons un parcours à partir des psaumes qui pour beaucoup reflètent un état d'âme, comment va celui qui écrit, et puis bien sûr beaucoup de musique grâce aux musiciens du foyer de l'âme. Donc c'est quatre dimanches. Alors, de manière pratique, puisque nous sommes limités quant au nombre de places, il y a entre le bas et les galeries 90 places dans le temple. Nous vous demandons donc de vous inscrire et de s'inscrire pour chaque dimanche. C'est un petit effort, mais ça permet aussi d'être plus accueillant afin que le plus grand nombre aussi puisse venir. Deux manières de s'inscrire. Pour vous qui êtes ici au culte ce matin, vous pouvez vous inscrire pour dimanche prochain sur le cahier qui est sur la table là-bas au fond. Vous écrivez votre nom. Mais si vous communiquez l'information, il y a d'ailleurs des flyers disponibles à ce sujet-là, eh bien il sera possible de s'inscrire à partir de demain ou cet après-midi. Cet après-midi, sur le site du Foyer de l'âme, en envoyant un message à l'adresse mail contact Foyer de l'âme qui est accessible sur la première page du site. Donc voilà, c'est notre amie Brigitte qui a accepté de compter parce que nous ne pouvons pas accueillir plus de 90 personnes. Donc voilà, ce sera la marche à suivre. Pour chaque dimanche, il faudra s'inscrire à partir du dimanche après-midi ou du lundi précédent. Est-ce que c'est clair? Voilà, vous pourrez le répéter à ceux qui ne sont pas là ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Il y aura aussi, bien sûr, le stand de la librairie protestante qui viendra pendant ces quatre dimanches de culte conférence avec un choix d'ouvrages à la fois sur le thème et puis des ouvrages des intervenants pour ceux qui ont écrit. Oui, c'est vrai, et merci à Jean-Pierre qui s'occupe de gérer, qui a mis en place et qui fournit cette page Facebook du Foyer de l'âme. Alors n'hésitez pas à la voir parce qu'elle est très belle, elle est très fournie. Abonnez-vous, faites-la connaître, mettez des... Comment ça s'appelle ? Des likes, merci. voilà, l'idée c'est de diffuser ce que nous faisons, enfin qui nous sommes et ce que nous faisons le plus largement possible, surtout largement au-delà des cercles d'église connus. Donc n'hésitez pas à relayer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très diverses sur cette page Facebook. C'est pas uniquement pour annoncer les événements de la paroisse. Vous avez des liens pour des émissions de télévision, des émissions de radio, peut-être des livres, de la musique. Vous avez des renvois sur d'autres pages Facebook, sur d'autres sites. Enfin voilà, c'est très très divers, c'est très ouvert, comme le Foyer de l'âme. Donc n'hésitez pas à y aller et à le faire savoir.
Moi je voulais juste rappeler à celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas lu le petit bulletin de l'amitié cette année, ce mois-ci, qu'on a un petit groupe d'accueil... un petit groupe d'accueil ponctuel de personnes hébergées à Toulon par Welcome Toulon et que nous avons des petits besoins là parce que il s'agit de les accompagner, des hébergés, ça c'est pas un problème, et de les accompagner pendant un jour, voire deux jours, voire trois jours. Et j'aimerais bien que vous vous rapprochiez soit de Bruno qui est là, soit de moi, soit de Marie-Geneviève qui connaissait tout ce petit circuit. Nous avons un besoin, entre autres, mercredi, ce mercredi après-midi, et la semaine suivante, les lundis et mardis. Voilà. Merci. Rapprochez-vous de nous. Je crois que on doit avoir une adresse mail quelque part. Je ne sais pas. Et puis peut-être j'en profite, puisque j'ai le micro, pour remercier toutes les personnes, toutes les familles qui ont apporté des jouets. Qui ont été bien distribués au CASP, et je crois qu'on a une petite carte de remerciement qui vous est adressée à tous, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde a été ravi. Merci.
Avec cette collecte de jouets pour Noël a quand même été une belle collecte et ça a été très, très apprécié. On a effectivement reçu ce courrier de remerciement du responsable du CASP qui s'en occupe, M. Lautric. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Ah, la collecte alimentaire! Oui, merci Romain. Je ne comprenais pas. Nous continuons, effectivement. Tous les dimanches, la collecte alimentaire est de produits d'hygiène et de produits d'entretien au profit des Restos du Cœur. Donc, grâce à notre ami Romain qui est fidèlement présent pour récolter ce qui est apporté, en vous signalant également que grâce à l'affiche qui reste en permanence sur la porte, il y a des gens du quartier qui commencent à venir et aussi à apporter des choses et d'autres. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là que nous puissions être repérés comme un acteur de solidarité, même si c'est pour une autre association, mais être repéré comme acteur de solidarité dans le quartier, dans le 11e. Donc on va continuer tous les dimanches, et donc voilà, pensez-y, ce n'est plus seulement le premier dimanche du mois, c'est tous les dimanches. Didier. Et il n'y a pas de cinéma. Et il n'y a pas de cinéma, il n'y a plus de ciné-club depuis un moment, et on espère le retrouver, mais alors... ça ne dépend pas de nous, bien sûr. Alors, s'il n'y a plus de paroles à partager, bien, il y a quelque chose à rassembler. Et ce sera notre offrande, qu'elle soit libre et qu'elle soit joyeuse, parce qu'une offrande, c'est libre et joyeux. Et en la recueillant, enfin plutôt en la donnant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 272. Thank you. rassemblons dans la prière d'intercession et je vous invite à entrer dans celle-ci qui est une actualisation de la prière du Notre Père. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité ou de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Amis, je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le cantique 391. Avant la bénédiction, et je vous rappelle que Nicole ne souhaite pas d'applaudissements après le dernier morceau d'orgue. Notre cheminement est toujours porté par une promesse, celle de la rencontre avec Dieu qui donne sens à nos vies. Et cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu. Elle se fait dans les visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons nos prochains, nos samaritains, nos frères et nos sœurs. Et dans les mots de la Bible, qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Alors, remettons-nous en route sur les chemins de nos vies. Nous chantons. Éternel Dieu vous accompagne sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le calme et dans la tempête, dans le travail et dans le repos, dans la solitude et dans la rencontre. L'Éternel Dieu est avec vous et pour vous, aujourd'hui, demain et toujours. Amen.